franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'histoire arabo-musulmane dans l'enseignement secondaire. Oui, émission un peu exceptionnelle aujourd'hui. S'ouvrent les rencontres de Blois consacrées à l'Orient. Et nous sommes pour cette conversation dans le Loir-et-Cher en public à l'auditorium Abbé Grégoire. Effet inédit, nous n'allons pas vous conter une histoire, mais dire comment en classe on raconte aujourd'hui l'histoire arabo-musulmane. Les temps ont bien changé, on est loin du style Archives 1937 du bon vieux Gaston Bonheur. Que voici dans un instant, mais il vient du fond des âges, Gaston Bonheur. Gaston Bonheur racontait avant la guerre de 1940, ah, il faut absolument qu'on l'entende, comment on pouvait présenter la guerre de la conquête algérienne. Et il disait, on l'a perdu en route, Gaston Bonheur, qu'il fallait beaucoup parler du général Bugeaud, le conquérant des années 1830. Notre invité Pierre Vermeyren, bonjour.
Bonjour.
Il saurait chanter la chanson, vous vous souvenez ? L'as-tu vu ?
La casquette du père Bugeaud.
Oui, le voilà, Gaston Bonheur.
Je suis parti de la presqu'île de Sidi Ferru, où débarqua le corps expéditionnaire le 14 juin 1830. J'ai vu la pyramide de Fort-l'Empereur, la statue du sergent Blandan, des plaques de marbre aux lettres presque effacées. J'ai connu les troupiers oubliés. J'ai vu des lauriers roses sur l'emplacement de la smarade Abdelkader, cette formidable capitale ambulante. Et la casquette du père Bugeaud, l'as-tu vue ?
Alors vous reprenez, Pierre Vermeyren ?
Non, ça va. Je suis pas très chanteur.
Si vous vous intéressez à ce sujet, l'histoire arabo-musulmane dans l'enseignement, c'est pas seulement parce que votre grand-père vous a transmis ses souvenirs. Vous avez vous-même enseigné à Rabat.
Oui, j'ai enseigné à Rabat et pour enseigner à Rabat, en fait, j'étais déjà engagé dans des recherches depuis plusieurs années sur le Maroc, l'Égypte.
Vous êtes un des plus grands spécialistes du Maghreb contemporain et de son historiographie. Comment on en raconte l'histoire ? Et puis vous avez peut-être des enfants dans l'enseignement ?
Absolument.
Un enfant en première.
Quatrième, première.
Voilà. Alors on parlera des deux nœuds du premier et du second cycle dans un instant et on s'appuiera au long de cette émission sur une enquête de feu l'INRP. Institut national de recherche pédagogique, qui vient d'être publié. Ça sort tout fraîchement, là, aux rencontres de Blois, aux presses de l'École normale supérieure de Lyon. Vous pouvez peut-être d'abord nous raconter comment on fabrique un programme.
C'est assez compliqué. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un Conseil national des programmes. Bon, personnellement, je n'ai jamais participé à la confection d'un programme, mais je constate que, on le voit dans la presse d'ailleurs, il y a de nombreuses pressions qui s'exercent, il y a, on peut le dire, des lobbies. Et quand on regarde finalement depuis un siècle la manière dont sont constitués les programmes en fonction des différentes périodes historiques, on se rend compte qu'il y a toujours une forte composante idéologique dans les programmes et qu'on observe des variations, des alternances qui paraîtraient vraiment extrêmement surprenantes à la période antérieure. Donc,
plus il y a d'interventions et plus il y a de rotations rapides, parce qu'on change les programmes sans cesse, plus il y a le risque de l'inflation.
Oui, mais le risque de l'inflation, je dirais, il est permanent parce qu'il y a toujours une ambition d'exhaustivité dans les programmes. C'est ce qui déroute d'ailleurs beaucoup les enseignants du secondaire qui sont soumis à des horaires modestes, qui ont peu changé, voire qui ont été réduits, alors que les exigences chronologiques et thématiques sont, on pourrait dire, démentielles.
Nous parlons depuis Blois sous le regard attentif d'un public largement composé, j'imagine, d'enseignants à qui on peut faire. Deuxième question. Comment regarder les manuels à qui on peut faire la même recommandation que leur faisait dans la plus haute antiquité Jules Ferry ? Le livre est fait pour vous et non vous pour le livre.
Oui, l'enseignement de l'histoire, c'est quand même un enseignement qui doit présenter, qui doit explorer et démontrer aux étudiants ou aux élèves qu'ils ne connaissent pas grand-chose, on va leur ouvrir des perspectives et ce livre d'histoire qu'ils ont dans les mains, ils ont tout à en découvrir. Et donc la mémorisation de la chronologie, la mémorisation de l'espace à travers les cartes, l'appréhension de périodes qui leur sont absolument inconnues, C'est un enseignement qu'il convient de faire d'une manière assez exigeante, assez rigoureuse. Et aujourd'hui, vous le savez, on a beaucoup de réticence dans l'enseignement à demander l'apprentissage et à faire de l'histoire sans connaître un minimum et même un certain nombre de connaissances factuelles, c'est presque impossible. Donc, demander aux gens de découvrir l'histoire par eux-mêmes, par leurs efforts, par leurs imaginations, j'y crois pas trop.
Alors, on recommande deux dates sur 43 qu'il faut connaître au moment du BEPC, dans notre domaine, celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'histoire arabo-musulmane, l'Égir 622 et la guerre d'Algérie 1954-1962. Ah, les élèves ne savent pas tout, bien sûr, au départ, mais certains quand même, on va dire, en mettant beaucoup de guillemets, d'origine beurre, ont une connaissance personnelle ou transmise par la famille du monde arabo-musulman. Le premier son d'aujourd'hui qu'on va entendre, j'imagine que la machine n'est pas dans le même état tout à l'heure qu'avec Gaston Bonheur qui s'est dérouillé, c'est le témoignage d'Amar Abdani qui est professeur au lycée Maupassant de Colombes.
Pour ce qui est de l'enseignement que j'ai pu suivre dans les années 80, j'ai des souvenirs des lettres persanes de Montesquieu. Mais ça restait un islam qui était assez exotique en fait et finalement exogène. Donc c'était un islam qui était lointain. On traitait beaucoup de la décolonisation, des choses comme ça, mais sans toucher directement en fait, à l'histoire du monde arabo-musulman. Mais ce n'était pas une thématique qui était centrale comme elle peut l'être aujourd'hui. L'irruption de la question de l'islam, qu'elle soit en France ou à l'échelle du monde, fait que la thématique est abordée d'une façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus précise, dans un cadre, on va dire, beaucoup plus globalisant et d'échanges au niveau de la Méditerranée.
Alors, thématique beaucoup plus centrale. Oui, le monde arabo-musulman, il est davantage traité que, je ne sais pas moi, l'Europe nordique ou l'Europe centrale. Et l'islam, il est davantage traité que, je ne sais pas, le bouddhisme. Mais est-ce que c'est au nom d'une histoire connectée qui doit se faire à part égale parce que nous sommes dans la mondialisation, ou est-ce que c'est Pierre Vermeyren pour répondre à l'évolution du recrutement des élèves et donc à leurs attentes?
Je crois qu'il y a les deux, parce que si vous observez les programmes, les ouvertures thématiques sur l'autre, sur les autres aires culturelles, je pense par exemple à un phare qui est fait, un focus qui est fait par exemple sur une ville pré-colombienne en Amérique centrale. Ça n'a rien à voir avec l'immigration ou la population récemment installée en France. Bon, alors bien sûr, d'autre part, sur l'islam et sur le fait qu'il y a quand même aujourd'hui, comme vous l'avez dit, un enseignement assez structuré qui doit représenter bon an, mal an, si tout va bien, entre 20 et 25 heures de cours au cours de la scolarité. Donc c'est assez modeste, mais c'est en même temps conséquent. On peut dire des choses en une telle période. C'est évidemment lié à la demande et plutôt à la volonté que le savoir sur cette période soit partagé par l'ensemble. Hein, ce n'est pas non plus une demande communautaire ou ce n'est pas l'intention de faire un enseignement communautariste. C'est simplement l'ambition de donner des clés de lecture et de compréhension sur cette civilisation, sur cette religion, d'une manière, contrairement à ce que disait votre intervenant, le professeur, pas trop exogène. Mais en même temps, l'islam des lettres persanes, il reste quand même exogène.
Je peux vous faire une recommandation, Pierre Vermeyren. Vous participez à un débat de l'inspection générale sur le même sujet que le nôtre.
Demain.
L'enseignement de l'histoire arabo-musulmane. Pour faire plaisir à l'inspection générale, ne parlez pas en heures, parce que ça ne fait pas beaucoup. Évidemment, en 20 heures, 25 heures, vous parlez en pourcentage, et ça fait beaucoup plus sérieux. Est-ce que, on parle toujours du recrutement des élèves, il ne faudrait pas aussi parler de l'évolution du recrutement des enseignants? Beaucoup sont, je remets mes guillemets, d'origine beurre, maintenant.
Je pense qu'il faut beaucoup nuancer en fonction des matières enseignées. Vous savez, nous, à Paris 1 on a, et Paris 4, on forme beaucoup d'étudiants aujourd'hui au concours de l'enseignement secondaire, notamment au CAPES à l'agrégation. Et les études d'histoire en général, je ne pense pas vous faire une révélation en vous disant qu'elles ne sont pas très séduisantes pour le grand public aujourd'hui et pour les étudiants des générations
si,
actuelles.
C'est une révélation parce que les historiens ont tendance à cacher que dans beaucoup d'universités, je parle pas de Paris 1 qui obtient des résultats décisifs au grand concours, les bancs sont vides.
Bon. Oui, ça concerne toutes les sciences humaines, hein, malheureusement, mais il y a une décrue. Donc, dans cette décrue, finalement, qui est-ce qui surnage, si je puis dire ? ce sont évidemment souvent les étudiants que je ne dirais pas forcément d'origine les plus modestes ou les plus populaires, parce que finalement une licence aujourd'hui c'est très exigeant, et il y a aussi le vivier considérable des classes préparatoires qui alimente les licences et notamment les concours d'enseignement, que ce soit le CAPES ou l'agrégation. Donc je ne sais pas si le renouvellement du corps enseignant en histoire notamment est très important. En revanche, vous savez très bien que le ministère fait un appel très important depuis quelques années à des contractuels, et parmi les contractuels ce sont des gens qui n'ont pas les concours, et donc de ce point de vue là il y a un recrutement tout à fait nouveau.
Contractuels, disciplines techniques, disciplines économiques, disciplines de sciences dures, c'est le cas d'Amar Hamzani qu'on entendait il y a un instant, et peu d'évolution en revanche du côté du recrutement des professeurs d'histoire-géographie qui ont cependant un rôle crucial, ainsi que l'explique, on est toujours au lycée Maupassant de Colombes, Anne-Clémentine Larocque.
Sur la civilisation arabo-musulmane, certains professeurs qui ne sont pas forcément professeurs de lettres, professeurs d'histoire-géo, donc qui connaissent moins ces sujets-là, nous demandent parfois, avec raison je pense, d'intervenir, de recadrer les classes par rapport à tel ou tel débordement qu'il y a pu avoir, soit une insulte antisémite, soit une insulte à la religion musulmane d'un élève qui ne serait pas musulman. Et donc nous, effectivement, on essaye d'intervenir et de remettre des concepts en place. Par exemple, faire la différence entre islam et islamiste. Terroristes, intégristes, islamistes, ils ne font pas la distinction véritablement. Hein. Et souvent, certains, justement, trouvent que l'islamisme, c'est quand même cool. Sauf que quand vous leur expliquez, vous revenez quand même sur des choses qu'ils ont en plus vécues en tant que contemporains. Par exemple, en 2001, effectivement, ils reviennent un petit peu sur ce qu'ils viennent de dire et ils réfléchissent deux minutes. Donc, la sémantique est très importante, c'est le lexique qui est très important et l'explication des termes.
Pompiers volants, personnes ressources, d'autant plus indispensables qu'il y a, il faut quand même ne pas le cacher, des formations allées à l'histoire ou à l'histoire de la religion ou à l'idéologie religieuse concurrente qui se font dans des structures musulmanes, de la mosquée à l'appartement le samedi.
Oui, ça concerne, je pense, plusieurs dizaines de milliers de jeunes enfants de familles musulmanes qui, avec l'aide de consulats étrangers, maghrébins notamment, ou avec l'aide d'imams ou de groupes de religion, vont enseigner la langue arabe. Mais en réalité, sous couvert d'enseignement de la langue arabe, parce que c'est une langue, là aussi, c'est un problème connexe, mais considérable, hein, c'est une langue très difficile, sachant que la langue arabe que l'on enseigne n'est pas la langue que l'on parle. Bon, alors ça, c'est autre chose. Mais en fait, sous couvert d'enseignement de l'arabe, on a un enseignement religieux, bien sûr, très idéologique, et qui est souvent le minimum syndical, si je puis dire, ou le minimum religieux dont les élèves ont connaissance. Et donc, fort de cette connaissance apprise soit à la maison, soit dans ces formations parallèles, eh bien, ils ont un argumentaire qui, évidemment, n'est pas tout à fait l'approche scientifique que l'on essaye d'avoir dans l'enseignement.
Alors, il faut en effet beaucoup d'heures pour apprendre l'arabe. Je ne vais pas vous demander, Pierre Vermeeren, combien d'années vous y avez passé, combien ça a été difficile pour vous. Le nombre d'heures, même s'il est significatif, n'est pas non plus suffisant, disent les enquêtes sur les manuels, pour consacrer la moindre place à la musique arabo-musulmane, mais d'ailleurs à la musique en général,
musique
dans l'histoire.
Oui.
Peu de place est faite. C'est pour ça qu'en guise de réparation, et pour donner sa place à la musique française, voici.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, de mon âge pour partager mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la
joie ou la douleur.
J'ai connu des... La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Pierre Vermeyren en direct de Blois, où commencent les rencontres d'histoire. On entend des cartes de séjour, il y aurait beaucoup à dire. Notre thème aujourd'hui, c'est l'histoire arabo-musulmane dans l'enseignement, mais il y aurait beaucoup à dire sur la place de la France aussi. Tenez, jusqu'à nouvel ordre, les professeurs d'histoire sont professeurs de géographie. Et le professeur Knafou, géographe, se plaignait l'autre jour dans Le Monde que la place de la France diminua jusqu'à la portion congrue entre, d'un côté, la région, la proximité, et de l'autre côté, l'horizon européen.
Bah oui, comme on est toujours dans cette contrainte d'exhaustivité, finalement, on a du mal à sacrifier quelque chose. Et parfois, il y a des impairs quand même. Je me rappelle qu'en sixième, quand il y a un certain temps, j'apprenais un petit peu le micro-territoire qui était le mien à l'époque, mon département, etc.
Verdun, la Meuse. Cela,
voilà, absolument. Tout cela,
tout ce qui disparaît, mon pauvre.
Tout cela a disparu entre-temps. Et aujourd'hui, on a un retour de l'enseignement de la région qui avait disparu depuis longtemps. Et évidemment, cela se traduit du fait qu'il y a une grande place qui est donnée à l'Europe par effectivement une réduction assez importante de l'enseignement de la géographie de la France. Donc, oui, il faut faire des choix. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur, mais pourquoi pas.
On n'est pas là pour évoquer vos souvenirs d'enfance, Pierre Vermeyren. Parlons plutôt de ce qu'étudient vos enfants. Alors, il y en a un qui est en quatrième. Il a donc fait la cinquième l'année dernière. Premier nœud, la cinquième. Je lis, je me suis muni des instructions de l'inspection générale. L'essentiel dans les 4 à 5 heures consacrées au monde musulman est de présenter Mahomet. Le Coran et la diffusion de l'islam et de sa civilisation. On insistera davantage sur cette dernière et son rayonnement, abordé à partir de l'exemple d'une ville, que sur les constructions politiques qui résultent de l'expansion. Ça marche assez bien, d'ailleurs, l'histoire religieuse.
Oui, les étudiants, les élèves, tous les publics scolaires sont très demandeurs, en réalité, parce qu'ils sont très ignorants. Et je crois qu'à peu près, indépendamment des publics, l'enseignement du fait religieux, c'est quelque chose qui passe très bien. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours expérimenté.
C'est devenu une maxime. Maintenant, on rit de la politique, mais on ne rit pas de la religion. Cinquième, un professeur, Sévan Anamian. Nous sommes maintenant au collège Georges Braque de Neuilly-sur-Marne. Se félicite qu'on présente le Coran souvent avant Mahomet.
La nouveauté par rapport à l'ancien programme, c'est principalement le fait de commencer le chapitre par le contexte de l'élaboration et de la rédaction du Coran à l'époque du troisième calife Othman, c'est-à-dire pendant la période des premières conquêtes musulmanes. La méthode est plus historique, comme c'est le cas également dans l'enseignement des autres monothéismes en sixième, avec les débuts du judaïsme et les débuts du christianisme. Il s'agit vraiment d'historiciser la naissance de ces religions et donc de partir sur les sources de l'histoire de ces religions et donc en particulier sur le moment où elles ont été rédigées. C'est une lecture plus historique qui fait qu'effectivement, par exemple, on utilise le conditionnel pour évoquer donc, les vérités qui sont révélées par ces religions. Et puis il y a eu aussi un travail qui est fait en sixième sur les mythes antiques, qui fait que finalement, intellectuellement, ils sont assez préparés à ce genre de méthode et je ne pense pas qu'ils s'attendent à un discours complètement, vraiment différent de toute façon.
Bon, très bien, mais quand on lit l'enquête de feu l'INRP, que de choses disparaissent dans l'enseignement. Le monde arabo-musulman dans les manuels d'histoire, ça sort aux presses de l'ENS de Lyon. Ça porte donc sur les manuels d'il y a un an ou deux ans. Seulement deux manuels disaient que le Coran avait été écrit après la révélation. Et aucun manuel ne mentionnait ce fait assez annexe, au fond, qu'il y a des personnages de la Bible dans le Coran.
Oui, ils sont presque tous. En tout cas, ceux de l'Ancien Testament et le Christ et sa mère. Bon, donc, et Joseph. Bon. C'est vrai que le terme qui a été employé, c'est le terme d'historiciser. C'est vrai que historiciser l'islam comme historiciser les autres religions, historiciser la révélation qui est un concept religieux et qui touche au sacré, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose que les élèves, bien sûr, peuvent comprendre, mais qui est évidemment quelque chose d'extrêmement tabou du point de vue de l'islam officiel. Donc, il y a de l'islamologie en Europe, notamment, dans lesquelles des travaux sont menés. Il n'y a pas qu'en Europe, d'ailleurs, dans beaucoup de pays du monde, on travaille sur les conditions de ce qu'on appelle officiellement la révélation coranique. C'est évidemment très délicat parce que d'un côté, on veut donner aux élèves musulmans ou d'origine musulmane une connaissance plus intime ou plus proche, plus scientifique de leur religion. Et en même temps, là, on se heurte à la question du sacré. Et comme vous le dites, si ce que vous dites est vrai, mais je ne le remets pas en doute.
C'est une enquête de l'INRP.
Il y a un problème, effectivement, d'appréciation du sacré.
Laquelle dit qu'on présente en général le Coran avec des belles images, comme un beau livre, un bel objet. Un objet sacré, mais la question est celle de l'ouverture des portes de son interprétation.
Oui, il y a la question des images aussi.
On rappelle oui, l'expérience malheureuse d'un excellent éditeur qui avait présenté il y a peu de temps en spécimen aux professeurs quand ils font leurs achats une photo d'une miniature persane où on voyait Mahomet comme il était représenté au XIIIe siècle. Et puis après, quand l'ouvrage a été distribué aux élèves, c'était flouté. Le visage de Mahomet était flouté.
Voilà, donc c'est le rapport entre l'histoire et le sacré. Et on voit que cette question, elle est particulièrement posée dans le cadre de l'enseignement des choses relatives à l'islam. Parce que, disons que la doxa officielle, quelles que soient pratiquement les écoles, n'apprécie absolument pas qu'il y ait une distance critique, une distance scientifique. Donc, les professeurs d'histoire, ils ont des manuels, ils ont des programmes, et en même temps, ils sont soumis souvent sur le terrain à des revendications, à des exigences qu'ils doivent pourtant satisfaire.
Lisez Ouma.com, Mahomet n'est pas un guerrier, il est présenté comme tel dans les manuels scolaires. Et qu'est-ce que vous diriez, puisqu'il faut faire très attention au lexique, de cette définition, Manuel Nathan, histoire 5e, dimitude. Chrétiens ou juifs en territoire musulman, ils peuvent pratiquer leur religion en échange de la reconnaissance du pouvoir musulman et du paiement d'un impôt. C'est juste.
Oui, formellement c'est vrai, mais il y a le texte et il y a les pratiques. Alors évidemment, les pratiques, il n'y a pas un statut. Le statut de dhimmi, on peut dire qu'il a une forme d'universalité à l'intérieur de l'islam, mais en même temps, les pratiques ont été éminemment différentes en fonction des périodes, des lieux, des empires. Et on aurait certainement dans la réalité des choses très éloignées de cela.
Alors votre fils parviendra en seconde, peut-être les programmes n'auront-ils pas changé d'ici 2 ans. En seconde a disparu la Méditerranée au XIIe siècle comme carrefour de civilisation. On étudie l'Europe et la chrétienté médiévale et le cas de Constantinople et d'Istanbul, parce qu'au fond, ça c'est bien. Le monde ottoman ne doit pas être un mystère et le monde musulman ne se confond pas avec le monde arabe. Le deuxième nœud que je voulais aborder avec vous, Pierre Vermeeren, c'est celui de la première. Alors là, vous avez un fils en première. Je vous lis le programme, 7-8 heures, le temps des, je devrais dire en pourcentage, le temps des dominations coloniales, le partage de l'Afrique, l'Empire colonial français en 1931 au moment de l'Expo, la décolonisation, fin de l'Empire anglais des Indes et guerre d'Algérie.
Écoutez, le commentaire, d'abord, c'est démentiel, parce qu'on ne se rend pas compte quand on fait des programmes ou quand on a une connaissance historique approfondie d'une période, ou même un peu floue, parce qu'on a vécu à ces générations, ou durant ces décennies où la chose coloniale finalement était très présente en France, on ne se rend pas compte à quel point c'était exotique et très très difficile à comprendre pour un jeune Français d'aujourd'hui que l'appréhension du monde colonial. C'est-à-dire, c'est une idée très complexe, comme l'Union soviétique. Ce sont des choses qui sont très difficiles. Alors il faut entrer en 7 ou 8 heures dans l'Empire colonial français, dans l'Empire colonial britannique, parler de la transformation des sociétés en Afrique, dans le monde arabe, en Asie, et terminer par les décolonisations diverses, ça relève de l'impossible.
Et vous recommandez les choix ?
Moi, je pense qu'en France, on a une colonie qui a été la matrice de tout l'Empire colonial et de toutes les pratiques coloniales françaises, ça s'appelle l'Algérie. C'est pas mon terrain, donc j'en parle avec. C'est pas mon terrain de prédilection, donc j'en parle avec tranquillité. Je pense que l'Algérie a été la colonie de peuplement, le territoire de la conquête, de la guerre coloniale, de toutes les pratiques de la gestion de l'islam, etc., etc. C'est la colonie qui a touché le plus de millions de Français, si on peut dire. L'armée, bon.
Alors parlons Algérie.
Ça pourrait être un choix tout à fait stratégique pour éviter la dispersion et la difficulté de comprendre et d'analyser des situations qui sont elles-mêmes extrêmement différentes.
1954-1962, ce sont des dates qui doivent être reconnues de tout titulaire du BEPC, Laurent Fragerman, et Anne-Clémentine Larocque, enseignant.
C'est un sujet qui peut les interpeller ou les intéresser directement, alors que si on leur explique, on pourrait leur dire ce qu'on veut sur la Commune de Paris, par exemple, ça n'aurait aucun écho dans la classe. Hein, on n'est plus dans la période des années 70 avec des élèves très politisés. Donc il y a énormément finalement d'aspects du programme sur lesquels il n'y a pas de réactivité des élèves. Tandis que c'est un sujet, oui, qui est plus sensible, ils sont plus réactifs.
C'est vrai que la guerre d'Algérie, ce qui les intéresse le plus, c'est de savoir à quel moment elle a été libérée, même s'ils ont quand même tout à fait conscience que ça n'a pas été simple, ni d'un côté ni de l'autre en fait. Une fois que les accords d'Évian arrivent, on sent un soulagement, c'est vrai. Mais en même temps, ils ont quand même conscience que des généraux, qu'une armée française a été pour aussi. Ils ont pas mal de respect pour cette question. Le général de Gaulle... ils en parlent assez positivement parce qu'aussi il y a eu acceptation à part de Gaulle de donner l'indépendance. Quand on parle du putsch des généraux, ils sont plutôt intéressés par le fait qu'il y ait pu avoir des dissensions au sein de l'armée française. Hein. On parle parfois également des lois mémorielles par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut reconnaître, voilà, qu'est-ce que la France a reconnu? On fait le point là-dessus. Ils sont assez réactifs, mais je dirais assez positivement. Je n'ai pas eu de réaction, moins que pour le Proche-Orient en tout cas.
Soulagement quand on parle des accords d'Évian. Quand même, vous sacrifiez le Maroc. C'est plus facile de parler du Maroc. C'est plus facile de parler de Lyotech que de la colonisation brutale de l'Algérie qui se termine par cette guerre.
Oui, mais en une demi-heure, aborder le Maroc de Lyotech à l'indépendance et au roi sultan Mohamed V, c'est un beau défi aussi.
Oui, mais c'est quand même plus facile de mettre une photo de Mohamed VI, réformateur, que de mettre une photo des généraux d'Algérie aujourd'hui. Parce que la difficulté, ce n'est pas seulement de parler de la guerre coloniale et de la décolonisation, mais les régimes post-coloniaux dans les manuels ne sont pas qualifiés. On ne dit pas que ce sont des dictatures. C'est à peine si on dit que les femmes n'y sont pas très bien traitées. C'est plutôt à propos de la France qu'il faut dire que les femmes sont maltraitées.
Oui, vous savez, les régimes postcoloniaux, je crois qu'ils viennent d'entrer dans l'histoire l'hiver dernier, notamment en Tunisie. Pour l'instant, on avait beaucoup de mal à les aborder. Je pense qu'on entre de ce point de vue-là dans une véritable deuxième décolonisation.
C'est plus facile de parler de l'Algérie que du Proche-Orient, disait Anne-Clémentine Larocque. Il faut faire des impasses, ça sera ma dernière question. Impasse sur le Proche-Orient, ou alors une autre impasse. Votre fils, quand il était en sixième, c'était peut-être plus facile de lui parler des mythes antiques que du christianisme.
Non, attendez, je reviens sur le Proche-Orient.
Le
Proche-Orient...
Et sur le thème de l'impasse.
Oui, il faut faire des impasses, mais le Proche-Orient fait partie, non pas... C'est pas un programme colonial, ça fait partie de la guerre froide, ça fait partie du règlement de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une grande question internationale qui structure les relations internationales depuis 50 ans. Bon,
donc on
n'est
pas
obligé d'aborder tout
et
dans
est-ce
le
qu'on
chapeau
fait
colonial.
L'impasse sur le christianisme parce que ça pose des difficultés.
Non, bien sûr que non. Ça serait étonnant de ne pas enseigner le christianisme et d'enseigner l'islam.
Au nom du principe d'égalité et de l'accès de tous aux fondamentaux. Alors évidemment, le risque, c'est que l'altérité et l'aspérité, au nom du principe de précaution et de neutralité, finissent par devenir dominantes dans l'enseignement.
Et les mythes grecs, c'est la littérature aussi.
Ah, ben une autre fois, on fera l'enseignement de la littérature. Il faut que je fasse la litanie de nos participants. Mérine Moneghetti et Frédéric Martin ont préparé cette émission, ont fait des reportages auprès d'enseignants. Benjamin Chauvin, Roland Dandalex, Tanguy Le Corneau, Étienne Leroy, Alexandre James, ici à la technique, sous la houlette de Jacques Sigal à Blois.